France Musique. Les grands entretiens, Saskia Deville.
Bonjour, je suis Karine Dehaye, mezzo-soprano. Je suis née le 25 janvier 1972 à Rueil-Malmaison.
Karine Dehaye, vous nous parliez hier de votre enfance bercée par le son du cor joué par votre papa, mais aussi des premiers concerts auxquels vous avez assisté. Parlons aujourd'hui de pratique musicale. Tout a commencé avec le violon.
Exactement, ça a été le choix de mon instrument. J'ai eu du mal à choisir en fait.
Le vôtre ?
Oui, vraiment le mien. Ouais. Parce qu'au départ, évidemment, comme j'ai eu la chance d'aller voir des répétitions, j'avais vu tous les instruments et on a envie de tout faire, c'est terrible. Puis après, je me suis dit, ah ben non, le violon, en fait, c'est bien. Puis j'avais surtout remarqué qu'ils étaient plus nombreux que les autres dans l'orchestre. Alors je m'étais dit que j'aurais peut-être plus de chance.
Quel âge aviez-vous ?
Quand j'ai commencé le violon, j'avais 8 ans. Voilà.
Et vous rappelez-vous de votre premier cours ?
Alors, mes premiers souvenirs de conservatoire, c'était d'abord à Ris-Orangis et ensuite à Draveil. Je me rappelle qu'on m'a mis des petits scotch sur le manche pour bien appuyer dessus, parce que sans les petits scotch, c'était juste horrible. Là, d'ailleurs, je remercie mes parents qui ont été d'une grande patience. Parce que les premières années de violon, c'est quand même juste l'enfer. C'est vrai qu'au piano, on peut se tromper de touche, hein, mais le son est toujours juste. Au violon, on fabrique vraiment le son. On est vraiment à la recherche de la justesse. Et les premières années, c'est l'horreur. Enfin, avec le recul, je le dis. Et d'ailleurs, on n'a pas vraiment de plaisir. Hein. Moi, je crois que pendant 5 ans, j'ai pas eu de plaisir. Hein. J'étais toujours dans l'exigence de la justesse.
Qu'est-ce qui vous faisait tenir ?
Bah ça, c'est une bonne question. Peut-être justement parce qu'après, on avait aussi des petites sessions d'orchestre aussi, où on pouvait jouer à plusieurs, et ça me plaisait. Puis d'entendre aussi le résultat avec des grands élèves, voilà, ça, c'est des choses qui pouvaient... Et puis, écouter aussi des disques que j'étais heureuse de massacrer dans mon salon, vous voyez. Concerto de Brahms, je me croyais déjà arrivée, je faisais crac crac crinque dessus, c'était une horreur. Mais cette recherche, ouais, en tout cas, alors évidemment, on est toujours au début en train de regarder ses doigts, c'est une horreur. Après, on arrive à se détacher, il y a la vitesse, il y a les positions, on travaille les positions. Je me rappelle quand même de ça, que c'était quand même, c'était pas la facilité, je le dis. J'ai pas vraiment moi réussi à faire un avec mon instrument. C'est pour ça qu'après, comme par hasard, avec la voix, il s'est aussi passé quelque chose. Je pense qu'on est tous doués pour un ou deux instruments, il faut le trouver aussi. Je crois qu'il y a des affinités que l'on a. Mais en tout cas, ça m'a apporté cette rigueur dans le travail. Quand on recherche comme ça la justesse, je me suis rendu compte que maintenant, ça me sert aussi pour le chant. J'ai cette exigence pour la justesse parce que je l'ai eu aussi pour le violon, en fait.
Comment êtes-vous arrivé justement sur ce chemin
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que bon, déjà moi j'ai été voir les répétitions à l'opéra et les spectacles et ça j'ai eu un petit déclic et quasiment au même moment en fait j'ai eu la chance, alors c'est pareil, c'est des hasards, que le professeur de solfège dans la classe où j'étais, j'avais 14 ans, aille chercher le professeur de chant du conservatoire et lui dise mais faut que tu viennes écouter tel élève, je pense que ça peut être une voix intéressante parce que il y avait déjà un vibrato, il y avait déjà peut-être un timbre, ça j'en sais rien, une projection. Et le professeur de chant dit oui, ce serait vraiment intéressant, est-ce que tu veux faire du chant? Et donc j'ai commencé à 14 ans et demi.
Et vous aviez conscience, vous?
Pas forcément.
De posséder cette vibration?
Non, pas forcément. Non, pas à ce moment-là parce que j'avais jamais chanté d'autres choses que les
Walt Disney.
Ouais, que les Walt Disney où vous voyez les exercices de solfège, donc. qui sont pas vraiment au départ très 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 épanouissants pour
Mais cela
pour
dit,
la
ça
voix.
vous plaisait
Ah bah après oui ouais ceci dit oui très vite parce que c'est vrai qu'on peut tout de suite bah alors justement on peut tout de suite se faire plaisir en chant ça je crois que c'est quand même l'avantage de cet instrument par rapport au violon c'est-à-dire qu'on arrive quand même à faire une petite mélodie ou un petit aria antiqué assez vite voilà si on est raisonnable et qu'on chante pas du Verdi ou du Rossini ou du Wagner de la première année mais en tout cas on peut déjà se faire plaisir avec des choses qui sont abordables. Et c'est ça, je crois aussi, qui m'a plu, en fait. Ce premier professeur de chant, je vais le nommer, c'est Yves Sautin, qui est maintenant au CNSM à Paris. Et en fait, il a été très 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 prudent avec moi. C'est-à-dire qu'on n'a pas chanté des choses trop difficiles, ni trop aiguës, ni trop graves. Parce que dès le début, c'est vrai que j'avais déjà une voix avec une tessiture assez longue en fait. Et ça pouvait peut-être induire en erreur aussi d'autres personnes. Dire qu'au départ, il y a des gens qui disaient, mais elle est soprane, elle est mezzo, elle est quoi, elle est... Et il s'est pas soucié de ça. On a travaillé le médium, on a fait des exercices, on a fait des choses, voilà, qui étaient vraiment dans ma voix à ce moment-là. Donc ça ne m'a pas mis en danger et je le remercie encore. Et j'ai quand même travaillé avec lui 3 ans parce qu'après, il est parti en province. Et là, après, par contre, j'ai cherché d'autres profs. Ça a été la quête. La quête du professeur qu'on fait tous. J'en ai fait plusieurs, comme on dit, voilà. Moi, j'étais au conservatoire du 10e arrondissement, où je travaillais déjà avec mon professeur, Mireille Alcantara. J'ai eu la chance aussi, avant de la rencontrer, de rencontrer un ténor qui s'appelait Michel Cadiou, qui était en troupe à l'Opéra de Paris, que j'adorais vraiment, que j'aimais beaucoup. Et pareil, qui est parti à la retraite. Donc c'est là où je me suis dit qu'il fallait quand même que je trouve un autre professeur. Et mon parcours, c'est que j'ai eu beaucoup au départ de professeurs hommes. Et je me dis tiens, ça serait bien que j'ai une femme. Peut-être aussi pour trouver des choses par mimétisme, parce que je pense qu'on marche aussi beaucoup par mimétisme pour le chant. Et j'avais rencontré Jeanne Berbier, qui était donc elle déjà aussi professeure au CNSM. J'ai fait un stage avec elle et son assistante était Mireille Alcantara. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Mireille et après que j'ai eu la chance d'aller dans sa classe au CNSM.
Vous êtes effectivement entrée au Conservatoire de Paris en 1994. Ça a été un moment décisif dans votre parcours de jeune chanteuse, ça ?
Ah bah oui, bien sûr. La même année, moi je passais ma licence à la Sorbonne et tout
en
s'est
musicologie.
Enchaîné. Ouais, et tout s'est enchaîné. Donc je me dis c'est super. J'ai mon diplôme et puis maintenant je peux rentrer au conservatoire. Après, ce qui est très étrange, c'est que mon professeur de chant de l'époque qui m'a préparé à rentrer au conservatoire n'était elle-même pas encore au conservatoire, Mireille Alcantara. Donc en fait, j'ai fait une année avec Jean-Paul Fouchécourt. Et elle est rentrée l'année d'après, en fait. Elle est rentrée en 95. Vous voyez, c'était très, très étrange comme. Et après, j'étais heureuse de nouveau de retrouver mon professeur. Parce qu'en fait, c'est ça, on rentre au conservatoire, mais on veut que le travail qui a été commencé aussi se poursuive. Parce qu'une fois qu'on a justement trouvé la personne qui nous correspond, c'est juste génial, quoi.
Oh.
Et puis, oui, tous les cours qu'on a pu avoir, ça c'était quand même super de pouvoir monter avec orchestre des ensembles. Il y a vraiment que dans les conservatoires nationaux, on a la chance de pouvoir jouer avec orchestre. C'est pas la même chose qu'avec un piano. De pouvoir faire des productions aussi. Dès la première année, j'étais dans les chœurs de L'Amour des Trois Oranges. Et le metteur en scène, Andrei Sherban, faisait au même moment la Lucia à Bastille. Donc, il nous a permis de venir voir les répétitions. Donc, nous, on était des enfants, hein, faut le dire. Des grands adultes, mais des enfants quand même. Parce qu'on a pu voir répéter, oui, Roberto Alagna, John Anderson, Gino Quilico.
Et qu'est-ce qui vous traversait l'esprit?
Ah bah moi, j'étais super heureuse de pouvoir assister aux répétitions, de voir comment... Il travaillait, de voir déjà comment la voix aussi se propageait dans ce lieu immense. Parce que moi, au départ, à la Bastille, j'étais spectatrice, hein, donc. Et puis de voir, oui, que ça nous correspond aussi. De voir que c'est un métier vraiment qu'on a envie de faire. On a eu la chance d'avoir aussi des super profs de langue, de coach de langue, qui nous ont beaucoup soutenus pour l'anglais, l'allemand, l'italien. Vous allez rigoler, mais justement, comme prof de piano, je parlais des cours de piano tout à l'heure, j'ai eu Emile Naoumov quand même. Qui a été d'une grande patience avec moi, parce que moi, il partait de loin avec moi. Qui prenait le temps de mettre les doigtés, enfin, on rigolait. En fait, j'ai des bons souvenirs parce que il y avait du travail, mais il y avait une bonne humeur. C'était juste extraordinaire pour ça. J'ai aussi fait des cours de baroque avec Emmanuel Haïm, qui avait repris la classe de William Christie, des cours de théâtre. On avait Georges Verlaire comme professeur et ça m'a aussi beaucoup guidée par la suite. Voilà, des super souvenirs, je le dis, moi, ça a été un très très bel enseignement. Et puis, je me rends compte que au même moment, au conservatoire, voilà, j'avais aussi des partenaires que je revois encore, hein, Nora Gobiche, Sophie Koch, Patricia Petitbon, enfin voilà, c'est les copains, les copines au conservatoire, Paul Gay, enfin tous ces gens-là que je revois encore. Donc je crois qu'on a les mêmes souvenirs, ouais.
Comment se découpaient vos journées au conservatoire?
Alors, elles étaient bien remplies, mais à l'époque, nos plannings nous permettaient d'aller écouter les cours des autres. Et nous, en chant, c'est primordial, ça, d'aller écouter les autres. On apprend énormément en écoutant les autres. Et je me rappelle aussi que mon professeur voulait pas qu'on ait tout le temps les cours à la même heure. C'est-à-dire que celui qui arrive à 10h du matin, elle veut pas qu'il arrive à 10h du matin toute l'année. Et donc, on tournait. Ça forçait tout le monde à chanter à 10h du matin. Donc, on le faisait au moins une fois par semaine. Une fois par mois, pardon. Puisqu'on avait deux cours par semaine. Et puis, le fait d'avoir, oui, 3-4 heures de libre pour aller écouter les autres, quoi. On apprend toujours, en fait, en écoutant. Et c'est la même chose, même en répétition, encore maintenant. Moi, j'adore aller voir les répétitions. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire.
Vous alliez souvent au spectacle, en dehors des répétitions?
Ouais, beaucoup. Je me rappelle, effectivement, de cette fameuse bohème, justement, avec Roberto Alagna et Angela Gheorghiu, par exemple. Ça, je me rappelle d'avoir vu aussi les dernières représentations de Pavarotti dans le bal masqué. Ça, c'est un souvenir. Bah voilà, je cherchais, mais ça, c'est un souvenir. Forcément, à vie. Ça m'a beaucoup marqué, ça.
France Musique, les grands entretiens de Karine Deshaies.
Mon premier professeur de solfège, c'était Laurence Equilbet. J'avais 18 ans pour le DUG. Donc vous voyez, j'ai fait des belles rencontres. Et je me rappelle déjà d'ailleurs de l'exigence aussi de chanter juste. On travaillait déjà des poulains qu'à cappella, donc évidemment il y a des matières, moi j'étais un peu moins bonne parce que l'harmonie il fallait faire du piano et j'étais pas pianiste, mais ça ne m'a pas dégoûtée non plus pour autant, en tout cas ils nous ont toujours bien soutenus. Il y avait des cours aussi la musique du 19e, des leaders, c'est peut-être ça aussi qui m'a donné le goût de la mélodie aussi. Je réfléchissais, les cours de langue qui étaient vraiment appropriés. Moi, c'est vraiment en fait à la Sorbonne où j'ai vraiment appris la phonétique qui m'a vraiment servi après pour toutes les autres langues. Je trouvais ça très, très, très important. J'ai aussi des très, très bons souvenirs avec le chœur de Jacques Grimbert. Hein. Ça, je peux pas le nier parce que ça, c'était toutes les semaines. On faisait des tournées, des concerts et ça a été pendant toutes mes études à la Sorbonne.
Vous étiez nombreux?
On était très nombreux dans les chœurs, ouais, ouais. Et moi, la chance que j'ai eue, je disais, c'est que c'est encore l'époque où la Sorbonne avait encore des moyens et pouvait inviter des artistes, des grands artistes. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas avec l'éducation nationale. Mais oui, d'avoir fait des récitals avec José Van Damme, Valentini Terrani, Kabayanska, c'était extraordinaire quand même. On les avait avec nous en live à la Sorbonne, alors que je les connaissais par les disques. Vous voyez, donc moi j'ai toujours été heureuse de ce qui se passait autour de moi parce que je me suis toujours sentie chanceuse, vraiment chanceuse de pouvoir participer à tous ces moments.
Comment décririez-vous votre tessiture, Karine D?
Il y a 10 ans, je vous aurais dit tout de suite mezzo-soprano. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'évolution de ma voix vers l'aigu, je peux faire des rôles dits soprano. Je pense à tous les opéras sérieux chez Rossini, les Falcons pour l'opéra français. Et c'est vrai que au départ, j'avais une voix forcément de mezzo-soprano, mais de soprano 2 en fait. C'est toujours ce qu'on dit, en baroque, il n'y avait pas de mezzo, chez Mozart non plus, le terme est arrivé au 19e, hein. Donc on se posait moins la question. Mais on s'est dit, avec mon professeur, qu'il y avait forcément des rôles et des choses qui me correspondaient. Et c'est ça qui a fait aussi le choix de... Enfin, pas forcément de ma tessiture, parce que la tessiture, elle est faite au départ. Mais si on aime vocaliser et qu'on sait vocaliser, on va forcément aller vers un répertoire à vocalise. Moi, j'aimais bien les rôles de petits garçons. Il y avait quelque chose, en tout cas, même dans le jeu qui m'intéressait. Donc forcément, tous les rôles de travesti. Et après, effectivement, avec le temps, on voit souvent les rôles de, enfin, les voix de mezzo-soprano évoluer, soit vers l'aigu, soit vers le grave. D'ailleurs, il n'y a pas de règle. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est ça qui est génial, parce qu'après, on peut carrément aborder d'autres répertoires auxquels on n'aurait pas pensé 10 ou 15 ans avant. Au tout départ, je me disais, mince, je suis une voix intermédiaire, mince, donc je vais pas aller tout de suite faire des suraigus. Quand on donne des choses d'alto, par exemple, d'oratorio, moi, j'avais pas les graves non plus. Je me sentais au milieu et je me disais, mince, est-ce que c'est vraiment une chance ou pas? Et finalement, pour débuter une carrière, ça a été une chance. Parce que justement, pour faire tous ces rôles de travesti que l'on donne aux débutants, hein, Chérubin, Cébel, Stéphano, tous ces rôles-là, j'avais forcément la voix pour cet emploi. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est génial, parce que si j'avais une voix de grande soprano, on avait tout de suite mis une étiquette tout de suite, ben, on ne donne pas des premiers plans tout de suite, et ce genre de répertoire aux jeunes filles de 25 ou 26 ans. Donc en fait, au départ, je me suis dit que j'avais un handicap, et puis finalement... Avec le temps, je me suis dit que ça avait été une chance parce que j'ai mis tout de suite le pied à l'étrier. C'était même ma dernière année de conservatoire, j'ai pu faire mes premiers contrats. Et voilà, et dès l'âge de 25 ans, après la voie s'est ouverte et c'était génial. Mais la chance que j'ai eue, c'est que voilà, j'ai été avec des gens qui ne se sont pas trompés et surtout qui n'ont jamais dit tu es ci, tu es ça. On m'a fait vraiment travailler ce qui correspondait en tout cas.
Et puis vous vous êtes écoutée.
Exactement, aussi. Ouais, je pense aussi. Ouais, en tout cas, ça me correspondait très bien. Et comme je dis toujours, je ne suis jamais sortie d'un cours avec la voix fatiguée. Donc c'était toujours un bon signe.
Malheur immortel, extrait de Sappho de Charles Gounod. C'est la fin de ce deuxième épisode des Grands Entretiens avec Karine Deshaies. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Arthur Dumont, mixage d'Ofar Grid, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure, les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.